Et si vous êtes d'accord, on va avancer ensemble. Et je prie vraiment que Dieu vienne toucher nos cœurs, que ça soit pas juste ce que je vais dire, mais vraiment que Dieu vienne vraiment nous parler à chacun. Je me faisais la réflexion en discutant avec pas mal de gens que dans nos bibles papier, on a tous plus ou moins de choses. Moi, j'ai pas grand-chose dedans, mais je sais qu'il y en a qui ont plein de notes ou plein de marque-pages. Et moi, j'ai juste un petit truc. C'est une photo en fait, que ma maman m'a donnée il y a quelques années de quand j'étais petit. Et en fait, sur cette photo, quand je l'ai reçue, j'ai eu à cœur, et le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un verset dessus. C'est Jérémie, chapitre 1, verset 5. Et ce verset, il n'était pas anodin. Et c'est vraiment c'est le texte dans lequel on va cheminer aujourd'hui. Donc Jérémie 1, verset 5, qui dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Si on peut donner un titre à ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui t'a voulu et il te veut encore. C'est Dieu qui t'a voulu, c'est une vérité qui est hyper simple, qui est toute simple, mais qui est hyper importante et hyper fondamentale. En fait, juste de savoir et de croire au fond de son cœur, pas avec la tête, mais avec son cœur, que Dieu m'a voulu moi, c'est là comme la première pierre pour que Dieu vienne mettre toute son identité et toute l'identité qu'il veut mettre, celle de Jésus dans nous. Ça part du principe de base que Dieu m'a voulu moi. Et je voyais ça comme si on n'a pas déjà accepté et si on n'a pas saisi que ok, Dieu m'a voulu, je suis voulu de Dieu, ça va être compliqué de saisir l'identité d'enfant de Dieu. Et je me rendais compte, c'était pareil avec la famille terrestre, en fait. Je pense qu'un des besoins fondamentaux d'un enfant émotionnellement, c'est de savoir qu'il a été voulu, c'est de savoir qu'il a été désiré. Et en fait, tant qu'il n'a pas cette conviction, et tant qu'il n'a pas reçu cette chose-là de « ok, je suis voulu, ok, je suis désiré », ça va être difficile de saisir son rôle de fils ou de fille dans la famille. Et c'est quelque chose qui peut même amener pas mal de sentiments de rejet qui sont très profonds. Et en fait, je pense que c'est pareil avec Dieu. Et en fait, l'un des rôles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait plein de choses, il nous parle, il agit avec puissance, il agit avec douceur, il fait tellement de choses, mais un de ses rôles, c'est de témoigner à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient et il te rappelle, si tu as donné ton cœur à Jésus, il te rappelle que tu es fils et que tu es fille de Dieu. Dans Romains 8, 16. Et quand le Saint-Esprit nous témoigne qu'on est enfant de Dieu, je crois qu'il commence par nous convaincre que oui, Dieu m'a voulu. Je suis un enfant voulu de Dieu. Et moi, c'est une vérité qui est marquante et qui me parle, et je pense que c'est pour ça que le Seigneur m'avait poussé à écrire ce verset sur cette photo. C'est parce que cette vérité, elle m'a libéré d'une grande angoisse que j'avais pendant des années, depuis, je pense, l'âge de 3 ans jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Ça ne m'arrivait pas toutes les nuits, mais de temps en temps, et puis de plus en plus régulièrement, j'avais cette peur de ne pas savoir d'où je venais et où j'allais. Cette peur du néant, et de dire, en fait, est-ce que je suis là par hasard? Qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Et ça m'empêchait de dormir, j'avais des angoisses. Et en fait, quand j'ai compris, quand j'ai rencontré Jésus, la première chose qu'il est venu me montrer, c'est qu'il m'avait voulu. Et en fait, quand j'ai compris qu'il m'avait voulu, c'est là où j'ai pu comprendre son sacrifice à la croix, j'ai pu comprendre son amour. Et ça a été vraiment la première pierre qu'il a posée. En fait, j'étais pas là à cause du hasard. Et je voulais vous proposer ce matin qu'on puisse tous se mettre dans la peau de Jérémie, le prophète, et juste recevoir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin à chacun. Et en fait, le fait qu'on soit voulu, ça ne dépend pas du propre regard qu'on a sur nos cœurs. Ça ne dépend pas de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ça ne dépend pas de ce que même nous ont dit nos parents. Dans les familles les plus bienveillantes, on dit aux enfants qui n'ont pas été désirés, on dit « Ah, c'est la bonne surprise ». Et dans les familles qui sont plus cassantes, des fois, il y a des paroles qui blessent et qui détruisent. Mais même quand il y a eu des paroles de la part des parents, ça ne change pas le fait que Dieu avait voulu que tu sois là. Et ça ne dépend pas non plus de ce qu'ont pu dire certaines personnes, des frères, des sœurs. En fait, Dieu, il nous a voulu, et il m'a voulu, il t'a voulu, avant même que nos parents ils aient l'idée d'avoir un enfant. Et je vais même plus loin, Dieu, il nous a voulu avant même la création du monde. Ce qui nous a élus avant la fondation du monde. Jésus qui est mort pour nos péchés à la croix, il était l'agneau sacrifié avant la fondation du monde. Et c'est tellement beau de voir que de toute éternité, en fait, tu es voulu de Dieu. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, pourquoi Dieu, il dit ça à Jérémie ? Nous, ça nous parle aujourd'hui, moi ça me parle parce que j'ai grandi dans une famille athée et j'avais pas cette conviction-là que j'étais voulu d'un Dieu. Mais un juif de l'Ancien Testament, il est convaincu que Dieu est créateur, il est convaincu que Dieu l'a voulu, il est convaincu que Dieu a choisi son peuple. Et pour lui, c'est évident en fait. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi Dieu, il redit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je crois que c'est simplement en fait le cœur de Dieu qui déborde, le cœur du père en fait, le cœur du papa. Et en fait, juste de faire sentir à ses enfants qu'il est désiré, c'est genre vraiment le cœur de Dieu le Père, et c'est vraiment le meilleur des papas. Et je crois que c'est une des missions que Dieu donne à chaque parent, c'est vraiment de faire sentir à ses enfants qu'ils ont été voulus, désirés, avec le cœur de Dieu. Et ouais, je voulais peut-être juste prendre un temps, on va peut-être juste s'arrêter, juste prier. Je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes-là, mais peut-être que tes parents ils t'ont dit que tu n'étais pas forcément voulu de leur part, ou peut-être qu'il y a des paroles comme ça qui sont venues sur ta vie. Et j'ai vraiment à cœur que ce ne soit pas simplement juste moi qui parle, mais qu'on puisse avancer ensemble et juste prier que le Seigneur vienne remplacer toutes les paroles de malédiction par des paroles de bénédiction de sa parole. Et je veux prier juste Saint-Esprit maintenant que tu viennes toucher, que tu viennes remplacer, Seigneur, les paroles qui sont venues confronter ta vérité. Toutes les paroles qui ont dit que qu'on n'était pas voulu, qu'on n'était pas désiré, même de nos propres bouches, de la bouche de nos parents. Seigneur, on veut les refuser et on veut croire ce que tu dis sur nous. Avant que tu nous aies formés dans le ventre de nos mères, tu nous connaissais. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos cœurs et je prie vraiment que tu puisses amener une révélation plus profonde, Seigneur, de notre identité de fils et de fille de Dieu. Amen. Tac, prochaine diapo. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ces trois choses ? Donc il y a un post-it, un micro-ondes et un carambar. C'est un petit quiz pour le début d'année. Ouais, Tony l'a dit, ça a été créé par inadvertance. Ces trois choses-là, on n'a pas cherché à les créer. Et en fait, c'est en faisant des erreurs d'invention que des chercheurs ont trouvé. Le post-it, c'était un ingénieur qui cherchait à faire une colle super puissante, puis il s'est loupé. Il a vu que ça se décollait, ça se recollait. Et puis il a dit, tiens, je vais en faire quelque chose, au lieu que ça reste juste une erreur. Il a fait le post-it, pareil pour le micro-ondes et le carambar. Ce qu'on appelle la sérendipité, c'est le mot pour les choses qu'on trouve par hasard et qu'on exploite pour en faire une nouvelle création. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que le post-it, diapo suivante, celle d'après, tac. Le post-it, il a été créé par hasard et la pensée sans Dieu, c'est que tu es un post-it. Tu as été créé par hasard. T'as pas de valeur, t'as pas d'importance, t'es arraché, t'es recollé un peu partout, et puis une fois que tu finis ta vie, une fois que tu meurs, t'es froissé, jeté à la poubelle et t'existes plus. Et c'est comme si dans cette pensée-là, il y a ce post-it-là qui est collé sur nous, où on est là, on a ce post-it-là sur le cœur et on se dit, ouais, peut-être que je suis un hasard en fait, peut-être que je suis une erreur, peut-être que Dieu il s'est trompé, je ne sais même pas si Dieu existe. Je crois que le cœur de Dieu, c'est de venir enlever l'image du post-it, c'est de venir vraiment l'arracher de nos cœurs et la remplacer par sa vérité. Et la vérité de Dieu, c'est qu'il n'a pas écrit nos noms sur des post-it, mais il a écrit nos noms dans le livre de vie. Et rapidement, bah, c'est pas le vrai livre de vie, je vous rassure. Je suis pas allé le chercher au ciel. Mais j'ai essayé de prendre un beau livre quand même. Le livre de vie, rapidement, c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans les Psaumes, dans Philippiens, dans Apocalypse. Et c'est une, je ne sais pas si c'est un vrai livre, on verra au ciel, mais c'est une image dans laquelle Dieu il marque le nom de tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ sont inscrits dans le livre de vie. Et ce livre de vie-là, c'est le livre avec le nom de tous ceux qui passeront l'éternité avec Jésus. Et si tu as donné ton cœur à Dieu, bah ton nom il est dans le livre de vie. Et dans la pensée du hasard, dans la pensée du post-it, l'être humain il est très impersonnel, son identité elle compte pas vraiment. Que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, bah ça change rien. Les post-it c'est tous les mêmes. Mais ce qui est trop beau avec le livre de vie, c'est que Dieu il marque pas n'importe quoi dans le livre de vie, il marque le nom. Dans Apocalypse 3:5, on voit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Dans Philippiens 4, Paul il fait une petite allusion aussi au livre de vie. Il remercie des collaborateurs. Il dit « J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. » Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Et en fait, le nom dans la Bible, c'est important. Le nom dans la Bible, ça a vraiment une valeur qui est symbolique plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne plus des noms parce que c'est la mode, parce que ça sonne bien. Mais dans la Bible, et puis dans la culture juive, il y avait vraiment une profondeur dans les noms. Et en fait, le nom, ce n'est pas juste la sonorité par laquelle on t'appelle, mais c'est vraiment le reflet de ta personne. Et ça représente symboliquement bah, toute la personne qui porte le nom, son identité, sa réputation, même son autorité. En fait, le nom égale la personne. Et on a quelques exemples aussi dans la Bible, dans Proverbes 18:10, « Le nom du Seigneur est une tour forte. » En fait, ici, le nom du Seigneur, ça égale le Seigneur, en fait. Deutéronome 12:5, vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. Et en fait, le nom, là, ça représente la présence de Dieu lui-même, en fait. C'est pas juste le nom de Dieu qui est là, c'est Dieu qui est là. Acte 3:16, Pierre qui guérit le paralytique, il lui dit, c'est par la foi en son nom qu'il a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Il parle d'abord de la foi en son nom et puis de la foi en Jésus. En fait, la foi dans le nom de Jésus, on voit dans la Bible qu'on peut remplacer par la foi en Jésus. Souvent, le nom de Jésus égale Jésus. Et du coup, le nom, c'est vraiment, ça représente toute ta personne. Et c'est marrant, je me faisais cette réflexion quand je pensais à ça, c'est que la première chose que le roi de Babylone fait quand Daniel et ses amis arrivent de l'exil, il fait quoi ? Il change leur nom. Avant de leur imposer des règles, il change leur nom. Parce qu'il sait qu'en changeant leur nom, c'est une façon de toucher à leur identité, de leur faire abandonner leurs coutumes et leurs convictions envers Dieu. Et du coup, à l'image du roi de Babylone, qui dans la Bible représente de manière plus générale aussi bah, le mal et puis le diable, qui veut changer ton nom, il veut détruire l'identité que Dieu te donne. D'ailleurs, le diable va souvent t'appeler par ton péché, mais Dieu, c'est celui qui t'appelle toujours par ton nom. Et on voit dans la Bible, et ça m'a vraiment marqué, que quand Dieu appelle des hommes, il les appelle par leur nom. Moïse, dans le buisson ardent, il dit « Moïse, Moïse ». Samuel, la nuit, il appelle 4 fois « Samuel ». Même les gens qui étaient le plus contre lui, sur le chemin de Damas, il va trouver un homme qui deviendra Paul, mais qui s'appelait Saul de Tarse. Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et ça m'a vraiment touché. Quand je vois que Dieu est tout puissant, que je suis tout petit devant lui, il aurait très bien pu nous appeler humains, créatures, toi. Mais partout dans la Bible, il appelle les hommes et les femmes par leur nom. Et dans le livre de vie, c'est le nom qu'on a et le nom qu'il nous donne qui l'a marqué. Dans Jean 10, versets 2 et 3, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom. les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et les noms avaient beaucoup plus de signification dans l'Ancien Testament et dans le monde juif qu'aujourd'hui. Et il y avait vraiment une profondeur dans le choix des noms. D'ailleurs, Dieu a inspiré à plusieurs parents d'appeler leurs enfants selon certains prénoms. Je pense à Isaac, à Jean-Baptiste, même au fils d'Ésaïe. Et puis on voit vraiment qu'il y a une portée prophétique dans le nom. Abraham, ça signifie père d'une multitude, et c'est Dieu qui renomme Abraham comme ça. Et en fait, ça correspond exactement à ce qui va devenir. Ésaïe, ça signifie Dieu sauve, et c'est exactement en lien avec le message de salut prophétique qu'il va porter au peuple d'Israël. Et Jésus, Yeshua, ça signifie Yahweh sauve. Et ça, c'est juste merveilleux, en fait, de voir que le nom, il y a tellement plus, en tout cas dans la Bible. Et qu'est-ce que ça change concrètement de savoir que notre nom, il est inscrit dans le livre de vie ? C'est pas juste une écriture qui est dans le ciel et qu'on verra une fois que là-haut. Mais ce que ça change, déjà, ça donne de l'espérance. Ça donne de l'espérance parce que à part Jésus, il n'y a personne qui peut effacer ton nom du livre de vie. Qu'importe ce que tu traverses, il n'y a personne qui peut l'enlever. C'est vraiment un rocher qui est sûr. Et si tu restes attaché à Dieu, il est fidèle pour garder ton nom dans le livre de vie. Et c'est la promesse qu'il nous a fait. Lui, il ne nous abandonne pas. Et ça, c'est juste merveilleux. Et la deuxième chose, c'est que ça nous donne de la joie. Et pour cette année 2026, c'était vraiment l'encouragement que je voulais aussi nous laisser. C'est que je ne sais pas ce qu'on va traverser, mais juste, il y a une joie que personne ne pourra nous voler. C'est celle d'être inscrit dans le livre de vie et d'être en relation avec Dieu. Et Jésus nous encourage à avoir cette joie-là. Luc 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Et ici, on est une église où on croit que Dieu agit encore aujourd'hui, qui chasse les démons, qui guérit les malades. Mais en fait, la première chose pour laquelle on doit se réjouir, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est juste d'être en relation avec lui et de se réjouir que nos noms sont inscrits dans le ciel. C'est juste merveilleux parce que cette année, on va pouvoir se rappeler que en fait, la relation avec Jésus, tout part de la relation. Le fait d'être inscrit dans le livre de vie, c'est de pouvoir dire « je connais Dieu » et « Dieu me connaît ». Et je pense que là, souvent on se dit la chose la plus importante, c'est connaître Dieu. Et ça m'a mis une petite claque, j'ai écouté un message il y a quelques semaines qui disait « mais là, il y a une question encore plus importante, est-ce que je connais Dieu, c'est est-ce que Dieu me connaît ?» Et en fait, quand on est inscrit dans le livre de vie, « je connais Dieu et Dieu me connaît ». En enlevant l'image du post-it, Dieu il enlève l'image du fait qu'on n'a pas été voulu. Et il y a une autre image, c'est celle d'avoir été raté peut-être. On se dit, bon, Dieu il m'a voulu, mais il m'a raté. Depuis que je suis petit, mon papa il fait une blague. À moi et mon petit frère, des fois, il nous regarde et il nous dit, je suis content d'avoir gardé mes deux plus beaux fils. Hein. Les autres, ils étaient ratés, je ne les ai pas gardés. Et c'est marrant, mais... Et puis, nous, ça va, on est du bon côté, apparemment. Mais juste de se dire que Dieu, lui, le bon papa, le meilleur des papas, il a raté aucun de ses enfants. Et juste, peut-être prochaine diapo. Peut-être juste les mensonges qu'on peut briser ce matin. Le premier, c'est « je suis là par hasard ». Je n'ai pas été voulu dans ce monde. Je suis raté. Je suis une erreur. Et ça, c'est des choses qu'on peut croire au plus profond de nous-mêmes, des fois. Et je voulais juste qu'on puisse regarder ces mensonges en face et qu'on puisse prendre la vérité de Dieu. Et peut-être prochaine diapo. C'est pas moi qui le dis. Et on va juste prendre des passages de la Bible, de la parole de Dieu pour venir confronter ces mensonges-là. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu as été fait à l'image de Dieu, c'est magnifique. Et à la fin que Dieu, il ait fait tout ça, il dit, il regarda ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Et Jérémie 1,5, la parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Et que vraiment on puisse faire tomber ce matin tous ces faux mensonges qu'on peut avoir dans nos vies. Et je trouve que c'est toujours bon de regarder à Jésus, parce que l'objectif de Dieu, quand il vient toucher nos vies, quand il nous transforme, quand il fait une œuvre en nous, c'est de nous faire ressembler à Jésus. Et en fait, Jésus, il était pleinement convaincu qu'il était envoyé, aimé du Père, établi dans son identité sur terre, et il était pleinement convaincu de la mission que Dieu lui avait donnée. C'est trop beau de voir qu'en fait, les centaines de prophéties qui annoncent Jésus et sa venue, ils parlent autant de l'identité de Jésus que de ce qu'il va accomplir. On pourrait en prendre tellement des prophéties, mais ça touche autant à qui il est, à ce qu'il va faire, et c'est parce qu'il est pleinement convaincu de qui il est, qu'il fait ce qu'il peut faire. Et quand quelqu'un crée quelque chose par hasard, il trouve une utilité à ce qu'il vient de créer après coup. Le gars qui a fait le post-it, il s'est dit après, tiens, ça serait une bonne idée de faire un post-it. La différence avec Dieu, c'est que Dieu, avant de te créer, avant de me créer, avant de nous créer, il avait déjà prévu ce qu'il allait faire avec nous, il avait déjà un objectif et il nous a spécialement créés pour accomplir cet objectif. Et en fait, si tu es voulu de Dieu, c'est qu'il a un plan et des choses à faire avec toi. C'est Dieu qui t'a voulu et il te veut encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu nous veut ? La première chose, c'est parce qu'il veut une relation. Et vraiment, je prie que cette année 2026 soit une année d'intimité, une année de relation avec Jésus, de plus en plus. Et on va pouvoir creuser. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais fini la relation avec Jésus. C'est qu'on peut toujours creuser. Et moi, j'ai trop envie de le découvrir plus, quoi. Il veut une relation avec nous. Et la deuxième chose qu'il veut, c'est qu'il veut nous utiliser comme des représentants de son royaume sur terre. Et en fait, quand on parle de la relation, la plupart d'entre nous, la plupart des chrétiens n'ont pas de problème avec ça. C'est souvent d'ailleurs la chose qui nous a touchés chez Dieu quand on lui a donné nos vies et qui fait la différence avec toutes les autres religions. C'est ok, waouh, c'est un Dieu de relation et ça nous touche. Et ça on le reçoit. Et d'ailleurs, on dit souvent, voilà, moi je suis pas dans la religion, je suis dans une relation. Et vraiment, tout part de la relation. Mais quand il s'agit de croire que Dieu veut nous utiliser, là, on a des fois plus de mal. C'est des fois beaucoup plus compliqué. Et même les hommes et les femmes de la Bible ont eu ce problème-là. Et je vous propose qu'on se remette encore dans la peau de Jérémie et qu'on continue après ce que Dieu a dit. Donc Jérémie 1,5, et puis on va prendre le verset 6. Yes, celle d'après, tac. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Jérémie a répondu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » Et on a d'autres exemples. Quand Dieu appelle Moïse à le servir, Moïse dit, « Je ne sais pas parler. » Quand Dieu appelle Gédéon, il est dans ce même état d'esprit-là. Et je crois que Jérémie n'était pas convaincu en fait, de ce que Dieu lui a dit juste avant. Ce que Dieu affirme, tu es prophète, et Dieu, il ment pas. Mais Jérémie dit, je ne suis pas prophète parce que je ne sais pas parler. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et en fait, je crois que Dieu nous a créés pour un but, et c'est important de laisser Dieu nous appeler et nous convaincre de son appel, parce que lui, il voit ce qu'on ne voit pas. Et il ne juge pas sur les capacités humaines. Son plan, il dépasse nos propres plans. Et Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, ça nous est dit qu'il n'y a pas eu d'hommes comparables à Moïse qui sont parus après lui. Et ben en fait, il était bègue et il était prophète. Il paraît de la part de Dieu. Et je crois que Dieu, vraiment, il voit au-delà de ce qu'on voit. Et je prie que cette année 2026, ça soit une année où on laisse nos conceptions de comment on voit nos vies, comment on voit peut-être notre appel avec Dieu et qu'on laisse encore Jésus nous remodeler dans ce qu'il nous appelle à faire. Et un des freins pour accepter et vivre le fait que Dieu veut nous utiliser, et ça me venait à cœur, je crois que c'est la religiosité. En fait, l'une des caractéristiques de l'esprit religieux, c'est qu'en fait, il vient diviser l'Église en deux. Il met d'un côté les acteurs, de l'autre les consommateurs. Il y a ceux qui sont persuadés d'avoir une mission et ceux qui croient ne pas en avoir une. Et l'esprit religieux, il rend orgueilleux ceux qui sont en position d'autorité ou de savoir. On le voit avec les pharisiens qui sont accaparés le savoir, la connaissance, et il vient dévaloriser le reste des croyants. Et il vient faire croire que tu n'es jamais assez bien pour que Dieu fasse quelque chose avec toi. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que la relation et la relation d'intimité avec Dieu, elle brise autant l'orgueil que la dévalorisation. En fait, Dieu, il vient dans l'intimité, il vient te positionner exactement où tu dois être. Il met ton cœur à la bonne place et c'est tellement beau de voir que Jésus, il parlait avec autorité et avec humilité en même temps. Et en fait, quand Jésus, il veut être formé en nous, il va nous apprendre à... Il va briser l'orgueil, il va briser la dévalorisation et on va pouvoir être humble et rempli d'autorité et de conviction en même temps. Et ça, c'est trop beau. C'est des choses qui s'opposent dans notre conception humaine, mais en fait, Dieu, il les a unis, quoi. Jésus, il les a unis. Et face aux doutes qu'on peut avoir sur l'appel que Dieu met sur nos vies, dans tous les exemples bibliques, la réponse de Dieu, elle va toujours dans le même sens, que ce soit avec Moïse, avec Gédéon, avec le prophète Zacharie qui reconstruisait le temple, avec Jérémie. C'est que Dieu, en fait, il te dit « Je vais t'équiper et je vais te donner les forces de faire ce à quoi je t'appelle ». Toi, tu n'as pas la provision, la capacité, mais en fait, si je te donne une mission, je vais te donner les forces et puis ce qui va avec. Et j'ai été touché de voir comment Dieu, il est pédagogue aussi. Jérémie lui dit, mais moi, je peux pas parler, je suis trop jeune. Et la suite, Dieu va lui répondre une deuxième fois, et ça m'a vraiment touché. La parole de l'Éternel m'a été adressée, on le relit parce que c'est bon. « Avant de former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah Seigneur Éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Et l'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tout ce vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. On a un Dieu qui nous dit déjà de ne pas prétendre sur nos vies des choses que lui ne dit pas. Il lui dit ça premièrement et puis il lui dit qu'il va être avec lui, qu'il va le garder. Il lui dit de ne pas avoir peur. Et puis c'est l'Éternel qui met ses paroles dans la bouche de Jérémie. Et je veux vraiment prier ce matin que Dieu vienne faire pour 2026 tomber toutes les fausses excuses qu'on a. Jérémie disait « je suis trop jeune » et on a tous nos excuses. Et je prie vraiment que ces excuses-là, elles tombent au nom de Jésus ce matin. Et de se dire « c'est Dieu qui m'a voulu et il me veut encore pour cette nouvelle année ». Et en fait, c'est pas juste... mes capacités, ma force, mais juste je me mets à sa disposition et c'est lui qui va faire les choses. Et si on est toujours dans la peau de Jérémie, on peut reprendre ce texte et dire Dieu il nous dit ne prétends pas que tu es trop. Jérémie, si t'es jeune, mais toi tu peux mettre ce qui te concerne. Ne prétends pas que tu es trop peureux, que tu es trop mauvais, que tu es trop disqualifié. Ça pourrait être tellement de choses, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai. C'est vrai que Jésus nous a donné une mission, c'est de parler, c'est d'annoncer l'évangile. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Le péché, il vient vraiment détruire, salir tout ce que Dieu a fait de très bon. Mais grâce à ce qu'a fait Jésus pour nous, le fait qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, qu'il nous donne un nouveau départ, une nouvelle naissance, une nouvelle identité. On peut vraiment saisir ça pour cette nouvelle année. Et j'avais juste à cœur qu'on puisse juste prendre peut-être un temps d'introspection et de silence, de faire un bilan de 2025 sur notre relation avec Dieu, de là où on en est, peut-être de voir ce qui nous bloque. Et juste de prendre un temps de silence et de laisser le Seigneur nous parler. qu'on peut rester dans cette attitude de, d'introspection, et je vais juste prendre un texte qui... juste le lire. La compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec Jésus. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est le don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et qu'importe ce qu'on a pu vivre en 2025, il n'y a rien qui peut nous empêcher ce matin de revenir à Jésus et de décider que 2026 sera une année de relations profondes et d'intimité avec Jésus. Pour qu'il nous utilise. Et en fait, tout part de l'intimité, et Jésus, il a brisé toutes les barrières qui nous empêchaient d'être en relation avec lui, en relation avec Dieu. Il y a juste besoin de, par la foi, saisir la vérité de sa parole, et les barrières, elles tombent, et on peut rentrer dans cette relation avec lui, et on peut se laisser utiliser. En fait, Dieu avait tout prévu avant qu'on naisse. Et il a aussi tout prévu maintenant. Malgré tout ce qui a pu se passer en 2025, malgré tout ce qui a pu t'éloigner de lui, bah Dieu, il recalcule aussi le chemin pour 2026. Je lisais un livre il y a un peu plus d'un an, et il y a une image qui m'a vraiment touché, je vous la partage. C'est que des fois... On peut être en voiture et on a mis le GPS et on se trompe de route. Et là, le GPS, il recalcule, sauf qu'au lieu de prendre 15 minutes, il met une heure. Mais la vérité, c'est que même si ça met plus de temps, il nous emmène toujours au même endroit. Et peut-être qu'en 2025, on a fait des choix qui nous ont éloignés de ce que Dieu avait prévu, du plan parfait qu'il avait prévu. Et peut-être que ça va prendre plus de temps. Parce que Dieu, il efface tous nos péchés. Mais des fois, la conséquence de nos péchés, elle reste. Mais qu'importe, parce que Dieu, il recalcule toujours le chemin. Et s'il faut qu'il fasse un détour pour te mettre à part, pour te guérir, pour te restaurer, c'est OK. Mais Dieu, il t'amène toujours au même point. Il n'a pas changé sa destination pour ta vie. Et l'appel qu'il a mis sur ta vie avant que tu naisses, il est toujours là aujourd'hui et il est toujours là pour 2026. Et vraiment, je prie que ça soit une année où on rentre dans ce que Dieu a prévu pour nous, qu'importe le temps que ça prend, mais qu'on se laisse juste conduire par le bon GPS qui est le Saint-Esprit. Ouais, simplement que se rappeler que c'est Dieu qui nous a voulu. Moi, c'est une vérité qui a changé ma vie et ça me touche encore aujourd'hui. Et s'il nous a voulu, c'est pour une mission. Tant qu'on est sur Terre.